affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme d'État. Il a commencé sa carrière dans la Rome des Papes et des Barberini, puis il a passé les Alpes pour se mettre au service du roi de France. Ses ennemis ajouteraient qu'il n'a pas oublié ses intérêts au passage, en tout cas Mazarin, c'est bien lui, restera le principal ministre du royaume pendant une vingtaine d'années, malgré une expérience d'exil bien amère pour lui. Comment cet homme s'est-il imposé au sommet du pouvoir? Quelle fut sa façon de gouverner? Et pourquoi s'est-il toujours relevé de ses échecs? Olivier Poncet dresse un portrait tout en nuances du cardinal dans le dernier volume de la Bibliothèque des Illustres aux éditions Perrin. Bonjour Olivier Poncet.
Bonjour.
Alors Olivier Poncet, vous êtes professeur à l'École des Chartes et directeur d'études à l'EHESS. Vous avez été élu cette année correspondant à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. C'est votre deuxième ouvrage sur Mazarin. Peut-être pour bien le comprendre, ce personnage, il faut revenir à la Rome du début du XVIIe siècle. C'est là qu'il grandit, c'est là qu'il se forme. Qu'est-ce que ça représente, cette Rome des papes, dans la façon de gouverner en Europe à ce moment-là?
Alors Rome, à cette époque-là, c'est la Rome de la contre-réforme, donc une cinquantaine d'années après le Concile de Trente. C'est une Rome qui se transforme, qui a déjà commencé d'être embellie au XVIe siècle par Sixte Quint. C'est une ville très cosmopolite, où se pressent, comme ce l'était déjà le cas à la fin du Moyen-Âge, mais encore plus à la Renaissance, des gens originaires de toutes nations, des gens qui viennent pour des raisons très diverses, bien entendu des pèlerins, des gens qui viennent également s'adresser à l'administration pontificale, des gens qui viennent faire du commerce. Rome est alors une place très importante sur le plan financier, de sorte que se mêlent des gens qui viennent donc dans cette ville du centre de l'Italie pour des raisons assez diverses, en provenance de pays catholiques pour l'essentiel, hein, l'Allemagne, la France, l'Espagne et bien entendu la péninsule italienne, qui se rencontrent et qui sont de niveaux sociaux extrêmement différents, puisqu'on trouve à la fois la grande aristocratie romaine et italienne, mais également des gens qui sont des ecclésiastiques de tout rang, et puis toute une population de domestiques, d'artisans, qui sont là pour effectivement accompagner cette population très, très importante autour d'un centre qui est constitué par le pape et sa cour, la curie pontificale. De sorte que la Rome pontificale offre finalement une sorte de résumé de ce que peut être le monde catholique à cette époque du début du XVIIe siècle.
C'est un État avec ses dicastères qui sont un peu l'équivalent des ministères, son administration. Et vous soulignez bien que Mazarin, finalement, retiendra quelque chose de cette expérience romaine.
Ce que Mazarin a retenu, c'est que finalement, Rome est une ville-monde, mais que s'y pressent des populations qui ont des intérêts parfois divergents, en particulier sur le plan politique. Rome est une ville qui est relativement dominée par la présence assez proche de l'Espagne, puisque l'État pontifical, l'État temporel du pape en Italie, à l'exception d'Avignon en France, est situé globalement dans le centre de la péninsule, encadré d'une certaine manière par les puissances étrangères que sont en particulier les Espagnols au nord et au sud. Et Mazarin a grandi dans une ambiance assez hispanophile, qui était assez logique étant donné la proximité de sa famille avec les Colonna, qui avaient des intérêts importants dans l'Italie du Sud, de sorte que Mazarin a vécu dans son enfance une Rome à la fois totalement romaine, mais également assez proche de l'Espagne.
Une Rome aussi très généreuse d'un point de vue artistique, avec le rôle de mécène des papes, c'est peut-être un modèle qu'il conservera lui-même.
Oui, après le Concile de Trente, les papes, et en particulier Sixte Quint, mais également les papes Borghese, Barberini, ont conçu Rome comme finalement une scène sur laquelle devait se déployer en quelque sorte la catholicité triomphante, le centre de celle-ci à travers l'institution pontificale, dont la primauté et la centralité ont été réaffirmées à Trente. Et c'est une ville où effectivement les papes, les cardinaux font la démonstration de ce que l'art peut apporter en termes évidemment d'esthétique, mais également de représentation du pouvoir. Et Mazarin a grandi dans une ville qui offre par ses églises, par ses palais, par ses fêtes. Il a participé lui-même à une importante cérémonie de canonisation en 1622, où finalement Rome confirme par son image, comme l'a dit l'historien Gérard Labro, les ambitions politiques et théologiques de la papauté.
Alors au début, Mazarin est un jeune clerc parmi d'autres, et puis lui aussi entre en scène. Cela se passe à un moment particulier de l'histoire de l'Europe, à Casale. Nous sommes, vous le dites, dans le point le plus chaud de l'Europe, et lui représente les intérêts du pape. Et c'est là qu'il se révèle au monde et peut-être à lui-même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Alors, il se passe dans l'Italie du Nord ce qui a pu se passer dans d'autres théâtres européens, à savoir que les puissances s'affrontent, les puissances espagnoles, les puissances de l'Empire et la France, à propos d'une affaire qui aurait pu ne pas susciter autant d'engouement, mais qui a cristallisé en quelque sorte leurs affrontements, à savoir la succession de Mantoue. Et la papauté joue dans cette affaire une sorte de rôle qu'on appliquerait aujourd'hui, disons, au casque bleu de l'ONU, Mazarin étant l'un de ces casques bleus pour ménager une paix entre les belligérants, pour éviter un embrasement, un affrontement encore plus important. Et au moment où les puissances sont près de s'affronter précisément, Mazarin parvient à ménager une paix en tenant un discours, je dirais, à chacun d'entre eux, leur faisant croire que l'autre a accepté par avance les conditions de la paix. Et donc il peut se précipiter au matin d'un combat qui s'annonce assez sanglant en criant « Pace, pace ». En tout cas, c'est ce qui a été raconté à la fois à l'époque de Mazarin et ensuite qui a été célébré plus tard par des gravures, intervenant et stoppant en quelque sorte les lancements des troupes à la fois françaises et étrangères et ménageant une paix dont il s'est ensuite appliqué à trouver les détails et en particulier en négociant avec un homme qui comptera beaucoup pour lui, qui est le cardinal de Richelieu, qu'il rencontre quelques mois plus tard à cette occasion.
Et Richelieu rencontre ce personnage, au début il est peut-être un peu dubitatif et finalement il va devenir son mentor parce que Mazarin va définitivement passer les Alpes pour se mettre au service du roi de France. Pourquoi fait-il cette démarche? Pourquoi fuit-il l'Italie et Rome?
Vous avez raison de dire que Richelieu a éprouvé une certaine défiance à la rencontre de Mazarin, qu'il a d'abord perçu comme quelqu'un de relativement soumis à l'Espagne, ou tenant un discours un petit peu, difficile à comprendre. Et puis, petit à petit, il a su faire comprendre à Mazarin que la France pouvait être une forme de chance pour l'Italie, au sens où elle pouvait permettre ce rêve qu'ont tous les Italiens depuis Machiavel, de se libérer de l'emprise étrangère. Et d'une certaine manière, Mazarin a opté à ce moment-là pour un changement, on parlerait d'un renversement d'alliance, mais évidemment, s'agissant d'un individu, c'est tout à fait différent. Mais lui-même a changé complètement sa vision du monde, et en particulier sa vision de ce que pouvait être le théâtre politique italien, en considérant que la France était finalement la chance de l'Italie. Et de ce jour-là, il a progressivement cheminé vers un rapprochement très fort de son propre destin avec celui du Royaume de France, jusqu'à se faire d'abord évidemment détester et haïr par les Espagnols, et puis à devenir gênant pour le pape, de sorte que à la fin des années 1630, il ne lui reste plus grand-chose à faire d'autre que de fuir l'Italie et de rejoindre le Royaume de France, où Richelieu l'attend pour le faire servir ses intérêts.
À ce moment-là, sa position est assez fragile. Il compte finalement peu d'appui, peu de réseau. Comment parvient-il à se faire une place?
Il est vrai que quand Mazarin arrive en France, il arrive pratiquement sans rien. Il a fui par une nuit de décembre sur une petite barque qui s'est retrouvée à Marseille. Et en fait, il se met au service de Richelieu, qui est non seulement son mentor, qui est son patron, qui est son protecteur, qui joue un rôle finalement de père à la fois spirituel, de substitution, qui emploie ce jeune clerc à son service, qui en fait un de ses assistants les plus proches. C'est pas simplement un homme d'écriture, c'est vraiment un homme d'action. Il lui confie des missions diplomatiques, tant dans le Royaume de France qu'à l'extérieur, par exemple pour pacifier les affaires de Piémont. Et Mazarin, avec beaucoup de talent, et là il faut lui reconnaître effectivement qu'il s'est fait aussi un peu lui-même, parvient à à la fois à conforter Richelieu dans son choix et à se rendre assez indispensable à un moment où Richelieu connaît les pires difficultés, en particulier sur le plan intérieur, où il doit affronter un certain nombre de complots, de menaces réelles et directes sur son propre pouvoir ministériel. Mazarin, de ce point de vue, joue un rôle exceptionnellement proche du cardinal, qui est alors relativement fatigué. Il meurt quelques mois plus tard. De sorte que quand il meurt réellement en décembre 1642, le roi Louis XIII, qui l'a fait cardinal un an auparavant, c'est-à-dire qu'il l'a proposé au pape...
Il a dit
au pape, c'est mon candidat. Et donc Mazarin étant cardinal, ayant été le plus proche collaborateur de Richelieu, Louis XIII en fait le successeur de facto de Richelieu, avec effectivement une autre façon de gouverner, mais toujours dans le même esprit. Et c'est bien ça qui est intéressant avec Mazarin, c'est que c'est une nouvelle manière, mais ce sont les mêmes objectifs.
On a souvent comparé les deux hommes. Qu'est-ce qui les distingue justement ?
Alors, ce qui les distingue, c'est d'abord l'origine sociale. Mazarin est d'une origine extrêmement modeste. Son père est intendant de la famille Colonna. C'est pas tout à fait le petit personnel, mais enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas une aura sociale extrêmement étendue, tandis que Richelieu est un duc et pair, est un véritable aristocrate français. Ensuite, il y a un état d'esprit. Richelieu est quelqu'un de beaucoup plus direct, beaucoup plus... impérieux. Richelieu a fait condamner beaucoup de gens à mort, pour Mazarin jamais. Il y a également des goûts qui sont différents. Mazarin n'est pas beaucoup porté à la réflexion spéculative, tandis que Richelieu aime à penser le monde de manière théorique. C'est un théologien. À l'occasion, il se mêle de droit, alors que Mazarin, le droit, la théologie sont vraiment des matières qu'il ne goûte pas beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ne les comprend pas, mais pour lui, ce n'est pas ça l'important. Pourtant, ce qui les unit, c'est la destinée du royaume de France.
Pour Richelieu. Une certaine idée de la France.
Oui, on pourrait effectivement reprendre cette idée gaullienne, avoir une certaine idée de la France pour les deux. Une idée qu'ils partagent, que la France, finalement, est un monde d'équilibre dans l'Europe d'alors, qu'on a besoin que la France soit forte, puissante, pour assurer une forme d'équilibre en effet politique d'un bout à l'autre du continent. Et Mazarin, évidemment, a en tête la liberté de l'Italie. Richelieu ne s'en préoccupe peut-être pas autant que lui, mais il partage malgré tout l'idée que ce royaume doit être puissant et se dégager de l'emprise des Habsbourg, d'Autriche d'une part, de Madrid de l'autre.
Mazarin, à cet égard, a une particularité par rapport aux autres hommes politiques de son temps, c'est que lui a fréquenté de près les Espagnols. Il parle cette langue, il y a même séjourné. C'est important dans sa carrière, lui qui a longtemps combattu contre l'Espagne.
Oui, si on avait dit à Mazarin, quand il avait 15 ans ou 20 ans, qu'il allait être l'un des ennemis déclarés de l'Espagne, je pense qu'il aurait bien souri. C'est l'époque où il fait des études en Espagne, en accompagnant le cardinal Colonna, qui est son contemporain, qui a à peu près le même âge. Il l'accompagne comme une sorte de compagnon de voyage. Donc il apprend l'Espagne, il va en Espagne. C'est le seul ministre français de l'époque moderne qui a vécu en Espagne, qui parle très bien l'espagnol, qui comprend donc ce qu'est la société espagnole, ce qu'est le rapport au roi. C'est un Italien par ailleurs, et il sait que le roi d'Espagne a plus de sujets italiens que de sujets espagnols, au moins dans la péninsule ibérique. Donc c'est quelqu'un qui comprend ces équilibres-là, intuitivement, qui a saisi effectivement la manière dont les Espagnols pensent le monde. Et ça lui est extrêmement utile, en effet, au moment de devoir négocier, car il n'a cessé de faire la guerre aux Espagnols, mais aussi de rechercher avec eux les moyens de la paix, toujours à l'avantage de la France. Mais c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, ne peut pas se comprendre sans l'Espagne.
Et finalement, c'est cette guerre qui a éclaté en 1635 qu'il n'a pas pu empêcher et qu'il va mettre des décennies, finalement, à résoudre d'une certaine façon.
Oui, c'est un peu son drame. C'est-à-dire qu'il est, en 1635, il est à Paris, comme nonce extraordinaire, pendant deux ans, entre 1634 et 1636. Donc le pape l'envoie à Paris pour une mission quasiment impossible, qui est d'empêcher la déclaration de guerre entre la France et l'Espagne. Il n'y arrive pas, et c'est assez cruel de penser qu'en fait, il a échoué à empêcher le déclenchement d'une guerre dont il devra ensuite, pendant un quart de siècle, chercher à résorber les effets, en particulier en cherchant une paix. Et donc c'est toute sa vie, en quelque sorte, qui se joue là, entre 1635 et 1659, date de la paix des Pyrénées.
Alors, nous l'avons laissé avec Richelieu, qui lui disparaît. Il a comme protecteur le roi Louis XIII, dont il est très proche, mais Louis XIII ne tarde pas à mourir. Et là se joue une partie extrêmement importante pour lui, parce qu'il doit réussir à s'imposer dans le conseil de régence auprès d'Anne d'Autriche, dans un conseil qui était pensé par Louis XIII comme assez collégial. Et lui va réussir à devenir l'interlocuteur principal de la reine.
Oui, c'est un tour de force politique, politicien diraient certains, qui a fait l'admiration par exemple d'observateurs étrangers comme les ambassadeurs de Venise ou de Toscane, qui ont vu Mazarin entre mai 1643, date de la mort de Louis XIII, et la fin de l'année 1643, finalement non seulement se maintenir mais s'affirmer, alors que les cartes qu'il avait en main étaient relativement faibles, effectivement. Une régente qui est une Espagnole, qui est la sœur de Philippe IV, le roi d'Espagne, donc une étrangère, qui a besoin, elle aussi, elle vient juste de se faire pardonner, en quelque sorte, ses années d'opposition politique à Richelieu, et son atout maître, c'est son fils, qui est né en 1638, le jeune Louis XIV, autour duquel, finalement, va tourner sa destinée et celle de Mazarin. Et donc petit à petit, effectivement, Mazarin réussit à, ce que j'appelle ça, débrancher en quelque sorte tous les hommes politiques, les secrétaires d'État, les ministres qui étaient importants et qui avaient été hérités de Louis XIII, pour devenir le principal ministre de la Régence, en ménageant malgré tout des positions en faveur de ceux que lui-même avait contribué en quelque sorte à rappeler. Je pense ici évidemment à Gaston d'Orléans, comploteur impénitent contre le roi, contre Richelieu, et qu'il avait rappelé. D'une certaine manière, il avait été l'artisan du retour de tous ces gens-là, que ce soit Anne d'Autriche, que ce soit Gaston d'Orléans, et ceux-ci, d'une certaine manière, ne se sont pas véritablement méfiés d'un homme qui avait finalement eu plutôt des bontés à leur égard. Et le résultat, c'est qu'à la fin de l'année 1643, Mazarin, le cardinal Mazarin, est l'homme fort du gouvernement de la régence d'Anne d'Autriche.
Son lien avec Louis XIV est particulièrement important, il le partage avec Anne d'Autriche parce qu'il en est le parrain.
Oui, il en est le parrain. Alors, le roi Louis XIII a fait baptiser très tard son fils, qui jusqu'alors n'avait pas de nom. Et donc, c'est le moment où il est effectivement officiellement nommé lors de son baptême à Saint-Germain-en-Laye. Il avait été pensé que le pape pourrait être le parrain, mais la précipitation a fait qu'on n'a pas eu le temps d'aller demander une procuration au pape et qu'on a saisi le cardinal italien sous la main, qui se trouvait en plus être le ministre du roi. Voilà, Mazarin est le parrain de Louis XIV. Alors, ce sont des liens spirituels comme il s'en trouve pour d'autres personnes. Mais dans ce cas-là, c'est un lien spirituel qui se double d'un lien politique. Mazarin prenant très au sérieux cette filiation spirituelle qui lui a été confiée, s'en saisissant aussi comme d'une chance, d'une sorte de bouclier. Et donc, Mazarin a construit cette relation avec Louis XIV tout au long de sa vie jusqu'à sa mort. Bon, au tout début, c'est un enfant et Mazarin n'a pas véritablement de rapport étroit avec lui. Mais dès que la dizaine d'années approche, il décide d'en faire, non pas toute l'éducation, mais de lui montrer un petit peu à quoi ressemble le pouvoir. Et en fait, toute l'histoire de la jeunesse de Louis XIV, c'est un apprentissage, je dirais, aux côtés de Mazarin, de ce qu'est le métier de roi, le métier de chef d'armée, le métier de chef de la diplomatie, la politique, dont Mazarin, effectivement, lui apprend un certain nombre de ressorts, dont il n'est pas toujours facile de savoir si Louis XIV a bien compris la leçon, mais on peut penser qu'il lui a donné le meilleur de lui-même.
Qu'est-ce que c'est la politique pour Mazarin ?
C'est un art d'exécution. J'entends par là que c'est moins une théorie ou une théorisation des rapports, tels que par exemple Richelieu a pu les penser dans son testament politique, qu'une pratique qui en fait a pour principale caractéristique de ne jamais fermer de porte, de toujours laisser ouvertes toutes les possibilités. Mazarin n'a jamais, comme je vous l'ai dit, fait condamner quelqu'un à mort, ce qui est une façon évidemment un peu brutale de mettre fin à un dialogue politique. Il a exilé, il a condamné, il a fait arrêter ou emprisonner. Mais dans sa pratique politique, il laisse toujours une chance, une porte ouverte à la manière dont les gens peuvent réagir à sa politique. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, en revanche, des traités de comportement courtisan. Alors, on songe évidemment aux courtisans de Castiglione, mais aussi à des traités plus récents. Je pense à un traité d'un Napolitain qui s'appelle Torquato Acetto, dont le titre italien, c'est de la dissimulation honnête, qui prétend en fait que l'on... Tout un programme publié en 1641, donc on est vraiment dans les années où Mazarin s'implante en France. et qui soutient, entre autres thèses, que l'on peut mentir à condition que ça ne dure pas trop longtemps et que ce soit pour servir à un but honnête, d'où le titre de son ouvrage. Et Mazarin a beaucoup usé de cela. Je dirais qu'il a déjà commencé à Casals, vous l'avez rappelé. Et en fait, c'est quelqu'un qui a des objectifs extrêmement clairs, dont il ne dévoile pas nécessairement la teneur à tous ses interlocuteurs, mais sachant finalement parfois complètement changer de position. Au plan international, l'alliance avec Cromwell, qui avait fait décapiter Charles Ier, qui pour Mazarin était une horreur, car il avait en lui un respect profond du principe monarchique, Mazarin l'a perçu comme la seule manière de pouvoir vaincre l'Espagne dans les années 1650, quand l'équilibre entre les deux puissances, espagnole et française, était finalement impossible à rompre pour la France. Donc il s'est dit qu'il faut ajouter un acteur de plus. Et il est allé chercher l'alliance de l'anglican hérétique que constituait Cromwell, un personnage avec lequel il n'était pas facile de négocier. Mazarin avait à la fois de la crainte et du respect pour lui. Et c'est une des preuves, si vous voulez, que Mazarin n'était pas du tout fermé à des changements complets, du moment que ça servait des buts politiques très précis.
Nous avons un témoignage de sa façon de concevoir le pouvoir dans ces fameux carnets qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Et je le signale parce que votre livre est abondamment illustré de documents de la BNF. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces carnets ?
Alors, effectivement, le livre est abondamment illustré. C'était une des caractéristiques de cette collection que lance la Maison Perrin avec la Bibliothèque nationale de France, c'est de fournir aussi au lecteur de la biographie, qui est une vraie biographie classique, sans surprise si j'ose dire, un témoignage de ce que sont les sources de l'historien, pour laisser finalement au lecteur aussi la possibilité de se pencher sur l'épaule de l'écrivain. Et donc en effet, parmi les pièces qui sont montrées, qui sont commentées dans l'ouvrage, il y a les carnets de Mazarin, qui sont en fait des petites agendas ou des petits bloc-notes qu'il tenait avec lui globalement depuis les années 1642-1643, donc au début de son ministériat, et dont nous avons conservé des exemplaires jusqu'aux années 1650, au moment où il doit fuir en Allemagne, exilé en réalité par le pouvoir royal à cette époque-là. Ce sont des petits carnets d'à peu près une centaine de pages chacun, qu'il remplit soit au crayon à papier, soit d'une plume très, très rapide, et dans lesquels, au début, il va noter des éléments assez factuels à ne pas oublier, et qui, petit à petit, laissent la place à des réflexions, en effet, sur sa pratique du pouvoir, les jugements qu'il porte sur les hommes ou les femmes, les ragots qu'on colporte sur lui, les charges qu'il faut distribuer, les faveurs à accorder ou à refuser, des conseils à donner à la reine dans sa manière de gouverner. Des carnets qui sont écrits au début en italien, qui laissent un peu de place à l'espagnol, et puis qui à la fin, à partir des années 1647-1648, sont systématiquement écrits en français. Ce qui montre aussi combien Mazarin s'est acculturé au pays dans lequel il travaille, dans lequel il gouverne. Et c'est un témoignage relativement rare, peut-être même unique, à ce niveau de responsabilité dans la France moderne, d'une réflexion, ou plus exactement, car je crois que Mazarin ne réfléchit pas tant qu'il note qu'il se confronte à ses propres constatations, de ce qu'est finalement l'exercice du pouvoir, qui est un exercice qui est très humain en réalité. On a l'impression de jeu de cour, de coterie. En fait, il faut voir un peu plus loin que cela. C'est de la véritable science politique en réalité. Et donc Mazarin arrive à torer toute cette cour de courtisans et de grands aristocrates qui exigent beaucoup, surtout après le ministériat de Richelieu qui était extrêmement dur et qui pensent qu'avec Mazarin, les choses seront plus simples. Et il arrive finalement, et ses carnets en rendent compte, à véritablement gouverner aussi la cour.
La grande affaire de Mazarin, ça va être de trouver de l'argent pour faire ces guerres. Nous avons déjà évoqué la guerre contre l'Espagne, mais il y a aussi la guerre contre la maison d'Autriche. Vous dites que trouver des finances, c'est son affaire permanente et que c'est même un véritable sport de combat dans la France de l'époque.
Oui, oui, c'est un sport de combat parce que Richelieu avait déjà beaucoup demandé aux populations en augmentant les impôts. C'est ce qu'Emmanuel Leroy Ladurie a appelé le tour de vis fiscal des années 1635-1640 qui ont provoqué tant de révoltes. Yves-Marie Berset a écrit des pages merveilleuses sur les révoltes du sud-ouest de la France, des croquants en particulier. Et donc le royaume est un petit peu sous tension lorsque Mazarin arrive au pouvoir en 1643. Et donc il doit faire preuve d'ingéniosité pour ne pas toujours demander aux mêmes, en l'occurrence aux populations rurales. Et donc il va faire appel à des financiers Richelieu avait déjà commencé, mais Mazarin pousse le système très très loin, à qui il va confier des choses qu'on n'avait jamais imaginé donner ou prêter contre argent à des personnes qui sont d'abord des investisseurs, des spéculateurs. Il va leur permettre, par exemple, de lever l'impôt. Il va leur confier des offices qui sont des créations nouvelles et qui ne servent à rien sinon à être vendus auprès du public. Et en pratiquant ces formes d'emprunt, il parvient à une sorte de petit miracle, c'est-à-dire à augmenter le budget disponible pour financer les troupes de terre, mais aussi la marine, pour laquelle Mazarin avait une certaine considération et avait un véritable volontarisme, sans augmenter les impôts, ou très peu. De sorte que la première partie du règne de Mazarin, et ça peut surprendre puisque ça se passe avant la Fronde, eh bien c'est une période relativement calme, une sorte de décrue des révoltes populaires, alors même que l'argent disponible augmente parce qu'il est allé le chercher auprès des financiers.
Nous arrivons justement à ces années 1648-1649 où il y a à la fois une grande victoire politique de Mazarin qui conclut la guerre de 30 ans avec ce traité de Westphalie. Et puis la France, d'un point de vue de politique intérieure, s'agite. Et pour lui, ça va être une véritable période de crise qui va même le conduire sur les routes de l'exil.
L'année 1648 est une année de fête de paradoxes. C'est effectivement l'année où les armées royales parviennent à vaincre définitivement les armées espagnoles. On songe à la victoire de Lens du jeune Condé qui avait déjà remporté la bataille de Rocroi 5 ans plus tôt. C'est l'année où Mazarin parvient à obtenir une paix célébrée encore aujourd'hui comme un véritable tour de force diplomatique donc à Westphalie, effectivement. Et c'est l'année, au même moment, où Paris, les bourgeois de Paris, les parlementaires de Paris se rebellent contre l'autorité royale et où la monarchie est prête de céder aux demandes de ceux qu'on appelle bientôt les frondeurs pour partager davantage le pouvoir, pour rappeler les intendants qui ont été les fers de lance de la pression fiscale sous Richelieu et sous Mazarin. Et Mazarin ne doit son salut qu'au prince de Condé, dont les armées désormais revenues d'Allemagne puisque la paix était faite, sont tournées vers Paris qui est assiégé et qui est contraint à signer une paix en 1649 de quelques mois seulement puisque les choses reprennent et qu'à partir de là, la population française est prise dans un mouvement non pas tant de guerre civile que de troubles où l'autorité du roi est sans cesse mise à mal et où Mazarin d'une certaine manière cristallise en quelque sorte les détestations, les plaintes, les haines. Alors ce sont les bourgeois de Paris qui se plaignent que leurs rentes ne valent plus rien. Ce sont les parlementaires qui considèrent que le ministre ne les écoute pas et ne respecte pas leur pouvoir d'enregistrement. Ce sont les aristocrates qui considèrent que le moment est venu de leur céder un parcelle du pouvoir que tient Mazarin. Et d'une certaine manière, Mazarin solde le système du ministériat mise en place en France sous Richelieu et continuée par lui-même, mais qu'on retrouve dans d'autres monarchies anglaises avec Buckingham, en Espagne avec Olivares. Et donc c'est un moment, si vous voulez, où la mode ou le système politique arrive à un point de rupture dans ce qui avait été tenté jusqu'alors pour aboutir, et on ne le sait pas encore, à des formes beaucoup plus directes de gouvernement par le monarque lui-même, c'est ce qu'on appellera l'absolutisme. Finalement, la Fronde est un moment de passage où on essaye toutes les solutions. Mazarin lui-même ayant subi aussi les contre-coups de ce bouillonnement politique, puisqu'il a été exilé pendant plus d'une année hors du Royaume de France. Il a trouvé refuge en Allemagne, du côté de Cologne, dans l'électorat du prince-évêque de la ville, à Brûle. Mais de là encore, il essaye de revenir au pouvoir et il y parvient. Parce qu'en réalité, la Fronde condéenne, gouvernée par le prince de Condé, n'arrive pas, en quelque sorte, à s'entendre entre elles. Et donc le pouvoir royal reprend le dessus et Mazarin revient, en quelque sorte, en vainqueur.
C'était l'homme de trop et il revient en homme providentiel, d'une certaine façon. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est différent dans cette deuxième période de gouvernement?
Alors, il est différent. On peut comprendre qu'il a appris effectivement de la manière de gouverner les hommes. D'ailleurs, il est relativement soucieux dans les années 1653-1654 de s'attacher des fidélités aux besoins par l'argent, en leur promettant des places. Donc, Mazarin, quand il revient au pouvoir, n'est pas un triomphateur absolu. Il n'écrase pas Il a compris qu'il fallait s'attacher à un certain nombre de fidélités. Il a changé parce que son filleul a grandi et que donc le roi apparaît de plus en plus comme un acteur à part entière. Et ça, ça change beaucoup de choses pour Mazarin. Le roi est déclaré majeur en 1651. Mazarin le fait sacrer, si l'on peut dire, en 1654. Donc, même si le sacre n'est pas indispensable pour que le roi soit roi, ça signifie quand même que pour ceux qui voudraient s'opposer au roi, ils s'opposeraient à une personne qui est alors sacrée, ce qui est quand même quelque chose d'assez différent. Et puis, Mazarin a changé parce que il a définitivement compris que son avenir était en France. Dans les années 1640, il a encore des attitudes particulières, personnelles, où il peut se dire qu'à tout moment, le rêve peut s'arrêter et il peut rentrer en Italie. À partir des années 1650, et c'est très sensible dans la manière qu'il a de gérer son patrimoine, d'autant qu'il fait appel à un Français, Colbert, il décide cette fois-ci de ne plus avoir autant d'attitudes classiques pour un Italien qui achète des œuvres d'art, qui place de l'argent en banque. Là, il va acheter des terres. Beaucoup de terres, il va conquérir également des titres, il va se faire duc et pair en rachetant des duchés à la famille de Gonzague, plus ou moins ruinée à cette époque-là. Et donc Mazarin s'installe véritablement en France. Il fait sien le destin du royaume où il est respectueux de ce que nous appellerions aujourd'hui les corps constitués, même s'il continue toujours d'avoir un peu de défiance à leur égard, mais on voit bien dans ses négociations avec le Parlement qu'il est beaucoup plus prudent. Et donc Mazarin, oui, a changé. Et ce qui a vraiment changé, encore une fois, c'est la figure du monarque.
Et justement, finalement, le successeur de Mazarin, ce n'est plus un autre ministre, ce sera le roi.
Oui, c'est le roi. Et ça, c'est véritablement un choix qui montre que Mazarin a compris, même s'il ne l'a pas théorisé, que le ministériat prenait fin. Et donc, le seul successeur qu'il pouvait se donner à lui-même, ce n'était pas un autre cardinal, c'était le roi. Et c'est pourquoi, lorsqu'il est allé négocier la paix avec l'Espagne en 1659, il a dû accomplir probablement une manœuvre qui l'a certainement beaucoup chagriné, mais qu'il a fait au nom de la raison d'État. Il a empêché que sa nièce, Maria Mancini, ne détourne Louis XIV du projet matrimonial que Mazarin avait pour lui, à savoir épouser la fille du roi d'Espagne pour sceller l'alliance et la paix retrouvée entre les deux couronnes, qui était la garantie que la paix serait durable, que la paix serait intéressante pour les deux couronnes. Et par conséquent, Mazarin, d'une certaine manière, a un peu sacrifié ses intérêts, même si je pense que Mazarin n'a jamais songé à unir sa famille à celle du roi. Il a effectivement fait de Louis XIV un roi. Je le montre dans le livre, il a inventé la figure du roi soleil, la première monnaie qui montre effectivement, qui associe la figure du roi au soleil, c'est vraiment sous Mazarin, 1658. Les ballets où le roi se transforme en Apollon environné de rayons solaires, c'est également du temps de Mazarin. Donc d'une certaine manière, quand Mazarin disparaît en 1661, la figure du roi soleil Louis XIV que nous connaissons aujourd'hui est déjà dans une partie des esprits, et Mazarin a vraiment mis Louis XIV, je dirais, sur les rails pour tenir lui-même son pouvoir, d'ailleurs ce qu'il fait dans les jours qui suivent, même le lendemain de la mort de Mazarin.
Alors à sa mort, Mazarin laisse un royaume de France qui s'est agrandi, mais il laisse surtout une immense fortune qui a beaucoup fait parler, qui a été très critiquée. Vous dites que finalement ses pratiques n'étaient pas si différentes de celles des autres grands personnages de l'époque, des autres courtisans, par exemple, ou grands princes.
Alors, elles étaient relativement conformes, sauf que Mazarin l'a fait dans une mesure et une dimension qu'on n'avait jamais vue jusqu'alors et qu'on ne reverra plus. Aucun fermier général du XVIIIe siècle n'aura la fortune qu'avait Mazarin à son décès. Il y a chez Mazarin, en particulier à partir des années 1650, juste après la Fronde, un besoin compulsif d'amasser. Amasser de l'argent, et de l'argent liquide, des pièces de monnaie, dont il avait compris qu'elles permettaient de lever des armées pour le roi, mais aussi pour lui-même. En 1652, il revient au pouvoir parce qu'il a embauché 6000 hommes, une sorte de petite armée privée. Donc il a disposé une partie de cet argent dans les places fortes des frontières. Ensuite, Mazarin amasse énormément d'œuvres d'art. Il y a chez lui, en effet, des goûts qui sont à la fois des goûts d'esthète, mais il y a un goût un petit peu, je dirais, de collectionneur qui en veut toujours plus. ses statues antiques, ses tableaux, plutôt des tableaux contemporains, il achète de l'art contemporain, si on peut dire, se compte par centaines dans son palais, qui est aujourd'hui le siège de la Bibliothèque nationale de France. Et par ailleurs, les terres qu'il possède lui procurent des revenus extrêmement étendus. On estime sa fortune à 35 millions de livres, alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais globalement, il aurait pu mener une guerre pendant quelques années, rien qu'avec cet argent. C'est un moment évidemment un peu exceptionnel qu'on ne retrouve plus par la suite. Colbert, par exemple, n'aura guère que 4 ou 5 millions de livres à son décès. Et Mazarin, en fait, doit faire quelque chose avec cette fortune. Il ne peut pas, comme n'importe quel particulier, la céder à sa famille sans qu'il y ait eu auparavant un accord du roi. Et donc, c'est une scène qui a été racontée par plusieurs témoins de l'époque. Il commence par établir un premier testament par lequel il fait le roi légataire de toute sa fortune. Le roi lui rend sa liberté en lui disant « Mais non, vous en faites ce que vous voulez puisque vous avez servi correctement sous mon règne. » Et donc, Mazarin ensuite distribue sa fortune entre ses héritiers.
Nous pouvons peut-être retenir deux causes qu'il va soutenir d'une façon particulière. Il donne au pape, qu'il n'aimait guère par ailleurs, une somme conséquente pour faire la guerre contre les Turcs. Et puis dans cette maison, cela a son importance, il donne aussi une somme pour une fondation, celle du Collège des Quatre Nations, assortie d'une bibliothèque.
Oui, le Collège des Quatre Nations, c'est la dernière création d'un collège de l'Université de Paris au cours de l'époque moderne. Les Quatre Nations, en fait, c'est les quatre nations qui ont été conquises sous le ministériat de Mazarin. Donc c'est quelque chose d'important pour lui parce que c'est une manière de rappeler en quelque sorte que bien il a associé son nom à l'extension du royaume de France. C'est destiné en effet à fournir les moyens matériels et intellectuels pour l'éducation de personnes qui au départ devaient venir de ces provinces, l'Artois, le Roussillon, le Pignerol, donc qui devaient étudier à Paris. Et pour ça, effectivement, la principale fondation qu'il donne au collège, c'est sa bibliothèque, forte de plus de 40 000 volumes, bibliothèque reconstituée après la Fronde, puisque celle-ci avait été vendue à l'encan durant la Fronde. Qu'il donne au collège, constitué à l'époque où il la donne de merveilles, de raretés, de manuscrits, d'incunables, dont Colbert va distraire une partie pour le compte de la Bibliothèque du Roi en donnant en échange des doubles de moindre valeur, mais qui constitue effectivement une fondation remarquable, d'autant plus remarquable que Mazarin a prévu de continuer ce qu'il faisait avec sa bibliothèque, c'est-à-dire de la laisser libre d'accès pour les savants et les curieux qui en feraient la demande, de sorte que c'est la première bibliothèque publique de Paris, ouverte à certains horaires, installée donc dans un collège dont il ne verra pas la construction, puisque l'installation date de 1688, mais qui aujourd'hui encore, évidemment, porte au moins sur le fronton de la chapelle le nom de Mazarin sur les bords de Seine.
Eh bien, un grand merci Olivier Poncet pour cette présentation pleine de contrastes de ce personnage du cardinal Mazarin. Je rappelle le titre de votre livre, Mazarin, l'art de gouverner. C'est aux éditions Perrin en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France pour les nombreuses illustrations. Merci et à bientôt.
Merci à vous.